quelques mots, puisque je peux ensevelir ce débat et cette rencontre sous des propos administratifs qui sont souvent un peu ennuyeux. Je suis secrétaire général de l'Odéon. C'est simplement pour d'abord vous souhaiter la bienvenue, parce que c'est la première de ces le premier de ces rendez-vous donc au salon Roger Blin, et puis pour vous indiquer un peu l'esprit dans lequel on a souhaité réinstaller donc, ces rencontres qui existaient donc, sous les directions précédentes. Et qu'on a souhaité, en fait, évidemment, poursuivre, parce que les échos qu'on en a eus étaient absolument formidables. Donc, tout ce qui est formidable, on a plutôt envie que cela se poursuive. Simplement, on a essayé d'inscrire, en fait, ces rencontres dans un cadre un peu plus large, qui s'appelle les bibliothèques de l'Odéon. Je ne sais pas si vous en êtes déjà rendu compte, les documents vont arriver maintenant. On a commencé à communiquer un peu sur l'ensemble de ces choses. À savoir donc que la littérature, évidemment, c'est une chose qui est très importante ici, mais c'est une chose très importante pour Olivier Bondy, qui est un immense lecteur, qui s'est forgé, évidemment, son talent de metteur en scène dans un creuset mythe de l'Europa. C'est un lecteur absolument infatigable qui lit au milieu des livres et dans toutes les langues. Donc on a vraiment eu envie de mettre en avant. On a monté ce projet qui s'appelle la Bibliothèque de l'Odéon, qui consiste en 10 grandes émissions réalisées avec France Inter en grande salle, qui sont retransmises sur les ondes de France Inter, 10 rendez-vous philosophiques et des portraits de grands metteurs en scène également en grande salle avec France Culture. Également, toutes ces émissions, toutes ces rencontres font l'objet de rediffusions sur France Culture, de façon, si vous voulez, à étendre assez largement et offrir à l'ensemble du territoire national, puisque c'est un théâtre national, d'avoir accès, même si on n'est pas à Paris, donc à ce qui se passait en grande salle. Par ailleurs, donc, on a souhaité continuer d'avoir des relations privilégiées avec quelques belles maisons d'édition, Le Seuil, qui fait l'objet de ce premier rendez-vous philosophique avec Jean-Christophe Bailly, avec Flammarion et avec Gallimard. Voilà, donc on sortira très prochainement un programme qui fera la synthèse de l'ensemble de ces projets, que vous pourrez donc trouver auprès de Marie-Hélène Boulan ou des personnels de l'Odéon, puisque Marie-Hélène, vous connaissez peut-être, s'occupe de la coordination de l'ensemble de ce projet. Voilà, simplement, donc, je vous souhaite très agréable débat et je vous souhaite fort volontiers la parole.
Merci. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, par rapport à l'année dernière, il y a une nouveauté, pas de décor, mais on n'a plus de micro, donc voilà que je ne suis pas comédien, j'ai jamais appris à me voir, je fasse attention, donc si jamais vous m'entendez mal, dites-le moi, hein, parce que je ne m'en rends pas bien compte, je ne me rends pas compte de l'écho de ma voix. Il se trouve que l'année dernière, il y a 2 ans et même 3 ans, ces rencontres avaient un autre nom, elles s'appelaient les traversées philosophiques. Donc elles ont été débaptisées, même si elles gardent le même dispositif, a priori, d'organisation de la conversation. Il se trouve que, pour le coup, je pense que les traversées philosophiques portaient bien leur nom pour la rencontre de ce soir. Parce que précisément, ce soir, il est question d'une traversée. Une traversée d'un pays, la France, d'un territoire, d'une histoire. Traversée de frontières aussi, de frontières à la fois physiques, géographiques, mais également peut-être de frontières, j'allais dire, de genre d'écriture. Puisque Jean-Christophe Bailly, que je salue ce soir, est un auteur qui, je crois, enfin, il va nous en expliquer, a toujours quand même traverser des frontières en permanence, puisqu'il passe d'un genre à l'autre, de la littérature à la poésie, du théâtre à la réflexion plus philosophique. Et sa pensée a toujours épousé un peu une forme un peu déambulatoire, un peu comme ça, une sorte d'errance un peu à la fois dans les genres et les espaces. Et donc, de cette manière, bon, je pense qu'on aura pu garder pour ce soir au moins l'appellation traversée philosophique. Je vous présente rapidement comme Jean-Christophe Bailly, pour ceux qui peut-être cerneraient assez mal son œuvre, qui est une œuvre d'ailleurs assez disséminée, dense, foisonnante. Puisqu'en effet, il est donc docteur en philosophie, écrivain, poète, dramaturge. Il a une activité d'enseignant aujourd'hui, puisqu'il enseigne à l'École nationale supérieure de la nature et du paysage à Blois. On en reparlera, j'imagine, tout à l'heure, parce que je pense que forcément ça a un lien avec le sujet de ce soir. Donc je ne vais pas citer tous ses livres, parce que vraiment il y en a beaucoup, mais bon, dans les essais assez nombreux, parus depuis quand même longtemps, puisque un de ses premiers grands livres qui a été paru déjà en 1976, qui était une anthologie du romantisme allemand, sur lequel peut-être qu'on pourra revenir aussi d'ailleurs, était paru il y a longtemps. Après, il a publié des livres assez connus, comme, je ne sais pas, je pense que c'était quelques-uns, La vie à l'œuvre, Panoramique, Le champ mimétique, Le Pisabel caché, Le temps fixé, la bénédiction sur Philippe Lacoubabar, donc des essais un peu de philosophie, parallèlement à des activités plus dramaturges, notamment avec un Georges Lavedan, qui a été longtemps, vous savez, ici, le directeur du théâtre de l'Odéon, avec lequel il a travaillé pas mal de temps, plus des essais sur la peinture aussi, sur Jacques Monory, etc. Bon, bref, on voit, et puis même des activités, j'allais dire, plus d'auteur-journaliste, entre guillemets, puisqu'il a également dirigé des revues, comme Fin de siècle ou Alia. Donc on voit bien que, déjà, dans ce parcours, déjà assez foisonnant, il y a vraiment l'idée même d'une traversée. Donc le sujet de ce soir, c'est le dépaysement, voyage en France. Et de cette manière, j'ai envie de dire que le titre déjà lui-même est une invitation presque à un voyage ou une réflexion, parce que le titre lui-même dessine presque un paradoxe, parce qu'il y a quelque chose comme un oxymore dans le même fait de parler d'un dépaysement et d'un voyage en France, comme si finalement les deux étaient tenus par une étrangeté, comme si peut-être finalement un voyage au sein de notre propre pays, c'était déjà en soi une sorte de dépaysement, comme si finalement peut-être on pouvait être étranger à soi-même. Peut-être aussi, et comme si finalement pour mieux se connaître, disons être curieux de soi, il fallait peut-être passer par des chemins, disons, parallèles, dispersés, un peu, disons, secrets, oubliés, voilà. Et ça me faisait penser à une phrase assez célèbre de Pascal, je suis désolé d'en mettre un peu de philosophie, mais bon, c'est pas une bonne idée. Pascal disait, c'est connu évidemment, je ne peux pas comprendre le tout si je ne comprends pas les parties, et je ne peux pas comprendre les parties si je ne connais pas le tout. Et je me demandais si finalement, dans votre projet, disons, je ne sais pas comment dire, dans votre, disons, élan sur l'idée de connaître un pays, la France, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ce mot désigne, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de pari un peu, j'allais dire presque pascalien, de se dire que finalement, pour connaître la France, il faudrait d'abord peut-être reconnaître les parties minuscules, dispersées, secrètes.
Oui, merci. Et c'est compliqué cette histoire de tout. Du tout et des parties, parce que ça réfère quand même, disons, à un mode de pensée classique, c'est-à-dire qu'à la fin, c'est comme un puzzle, on achète la boîte, on la défait, puis on fait le puzzle, ça forme une image, puis si on la défait, les pièces tiennent dans la boîte. Or, il me semble que, quelle que soit l'entité qu'on essaye d'approcher aujourd'hui, l'individu, le sujet, la vie, la nation, le monde, jamais les pièces du puzzle ne s'ajoutent véritablement entre elles, et jamais en tout cas, elles ne sont de nature à tenir dans quelques boîtes que ce soit. Et ça, ça a beaucoup changé la perception. Et une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est justement parce qu'il y a une énorme pression autour de la question d'identité pour inventer une espèce de pseudo-puzzle qui tiendrait dans une boîte où plus rien ne sortirait et où surtout plus rien n'entrerait. Et ça, c'est totalement opposé à la réalité du défonctionnement, déjà autrefois, mais encore plus de nos jours. Voilà. Donc, sur le tout et les parties. Après, bien entendu, on peut l'accepter de façon beaucoup plus, simple. Et en effet, la France se compose de tant de régions, etc. Mais cela dit, pour répondre à mon interrogation, je n'ai jamais pensé que je devais tout voir, tout visiter. Et je suis d'ailleurs, depuis que le livre est sorti, ça fait déjà quand même un an et demi, j'ai eu l'occasion d'aller évidemment dans des endroits où je n'avais pas mis les pieds, du moins au moment où j'écrivais le livre. Et ça m'arrive de plus en plus souvent de regretter de ne pas avoir traité certaines choses. Notamment, récemment, j'étais à Sarcelles, quelques jours d'ailleurs après qu'il y a eu l'attentat contre l'épicerie juive. Et j'ai regretté de ne pas avoir écrit quelque chose sur Sarcelles, justement parce que ça a été, à la fin des années 50, c'était l'inauguration d'un nouvel art de vie, d'une nouvelle forme de vie. Une dimension utopique comme ça, et donc quand on y est aujourd'hui, on a plutôt l'impression d'une sorte de, on pourrait dire, le ghetto, ce serait bien exagéré quand même, même si la présence de la communauté juive est très très manifeste, on a l'impression d'un espace urbain intéressant d'ailleurs, y compris sur le plan esthétique, mais qui est en posture de méfiance, il se méfie. Et essayer d'apprécier ça plus finement, de comprendre ce qui s'est passé en 50 ans, etc. Ben voilà, ça aurait fait un chapitre. Hein. Mais donc, ça c'est très souvent. Mais bon, juste un mot, puisque j'avais abordé cette question, j'y tiens, là, sur le titre, le dépaysement. Mm-hmm. Donc, c'est à comprendre au sens strict, c'est-à-dire quand on est dépaysé, en effet, quand on dit, j'étais en Chine, j'étais drôlement dépaysé, là, on n'a pas besoin de traduire, alors qu'en France, ça fait un effet d'oxymore, comme vous dites. Mais c'était aussi plutôt un caractère, c'était aussi, au même titre, une caractérisation d'une espèce de mouvement du pays. C'est-à-dire le pays se dépayse, comme on dirait qu'il se déniaise. Mm-hmm. Et une fois, en discutant avec des gens, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais au fond, ce que vous avez fait, c'est un livre contre l'empaysement, mot qui n'existe pas, mais qu'on comprend immédiatement, hein, empaysement, hein, c'est empaysé. Et un pays qui s'empaysse, c'est un pays qui s'engourdit. Et le dépaysement, justement, c'est vraiment ce qui désigne le contraire de ça. Et c'est ce à la rencontre de quoi j'ai essayé d'aller, pas toujours avec succès.
C'est-à-dire que, alors, pour revenir à l'intention de départ de votre livre, il y avait l'idée vraiment, c'est que comment est né ce projet-là, enfin, comment il a été paru évident pour vous. Est-ce que vous parlez tout à l'heure rapidement du contexte, disons, politique global du moment, avec ce débat en fait, sur l'identité nationale, mais il me semble que vous aviez eu le projet avant même de l'articulation de ce débat.
Oui,
voilà.
Bien sûr.
Donc pourquoi, pourquoi vous êtes intéressé à la France, enfin, est-ce que c'était un sentiment patriotique qui d'un coup...
Oh non, pas du tout.
Donc, quelle était l'idée?
Non, mais c'est...
Un projet politique ou politique?
Bah, les deux. Mm-hmm. Les deux, c'est-à-dire... moi, j'ai du mal à séparer les choses comme ça. Mm-hmm. Le monde politique tel qu'il se... présente chaque jour a assez peu à voir avec la politique. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Mais disons, il ne s'agit pas de la politique, il s'agit de l'appréhension, disons, de la possibilité que des gens vivant dans un certain coin de la Terre ont ou n'ont pas de vivre ensemble de la façon. Voilà, c'est ça le politique. Et donc, forcément, que ça touche exactement les préoccupations, disons, qu'on dit poétique, c'est-à-dire quelle est la qualité. Quel est le timbre de cette façon d'habiter, voilà, etc. Donc, j'ai essayé de regarder tout ça ensemble, mais la genèse d'un livre, c'est toujours extrêmement compliqué. Et l'auteur est malgré tout, je pense que c'est quand même lui le mieux placé pour en parler, malgré tout, mais il y a des choses qui remontent à il y a très très longtemps, c'est ce que je raconte d'ailleurs au début, hein, avec la surprise quand j'étais aux États-Unis à la fin des années 70, donc il y a très longtemps, ça fait 35 ans maintenant, et j'étais encore, puisque j'appartiens en plein à la génération de mai 68, j'étais à Nanterre, j'avais 19 ans, et il y a eu un principe espérance, comme on dit, qui a soulevé les jeunesses européennes, au moins européennes à ce moment-là, pas seulement européennes d'ailleurs, puis il y a eu un reflux. Ce reflux, il était extrêmement violent quand même. Et chacun l'a négocié comme il l'a pu, et les voyages, l'effet centrifuge a joué un très grand rôle. Et me trouvant à New York, donc en plein dans la vague centrifuge, si on peut dire, j'ai été extrêmement surpris en entendant à la télévision parler français d'être ému. Et même à l'époque, je me souviens, j'essaye de le raconter dans le livre, j'étais un peu choqué. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux? Enfin, j'ai mon vieux, j'avais même pas 30 ans, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça y est. Ben, c'était pas le mal du pays, c'était pas du tout identifiable comme ça, c'était une émotion. Alors, j'essaye de caractériser cette émotion, et je l'appelle l'émotion de la provenance. Donc, c'est la goutte, la goutte de sens, la plus lointaine que j'identifie dans le mouvement qui a pu m'amener à faire ce livre-là. Et puis après, je raconte une autre anecdote qui est la. Bon, le film, c'était La règle du jeu de Renoir, et évidemment, c'est-à-dire un film...
Que vous voyez à New York?
Oui, que... Non, je l'avais déjà vu, mais en l'entendant à New York, voilà. Comme ça, dans la... Après, en entendant la bande-son de ce film à New York, il y avait un violent effet comme ça, un violent envoi de quelque chose. Et qu'est-ce que c'est que cette chose? Voilà. Et j'essaye de l'interroger, mais en même temps aussi, je raconte... dans le même introduction, un autre souvenir, qui est un souvenir, j'étais allé voir mon beau-père qui est chinois, enfin, il était puisqu'il est malheureusement mort, mais j'ai été le voir dans une maison où il était en repos après une opération, et donc là c'est à l'envers, puisque c'est moi français qui vais voir quelqu'un qui vient d'ailleurs ici, Et puis, ce n'était pas seulement lui qui vient d'ailleurs, c'était la journée d'hiver près de Lyon, etc. Où il y avait une espèce de transfiguration du paysage qui, normalement, une maison de repos pour les vieillards, ce n'est pas très gai comme endroit. Et là, il y avait une espèce de, quand je dis ça, la montagne magique du Pô, mais c'était vraiment comme ça, une journée d'hiver, comme ça, irradiée plutôt que radieuse. Et j'ai eu l'idée, ça date de cette époque-là aussi, ça c'est il n'y a pas 35 ans, mais il y a peut-être une bonne vingtaine d'années, une vingtaine d'années, pas plus. Et là, j'ai eu la sensation que je devais raconter des histoires comme ça. Et que là, j'étais dépaysé, en effet, au sens le plus strict, et que finalement, il suffit de faire un petit pas de côté dans son propre pays pour obtenir ces effets de décalage. Et je notais d'ailleurs que je me souvenais que pour aller du centre de Lyon à cet endroit qui s'appelle Pô Lyonnais, il faut autant de temps que pour aller à Paris, même si c'est à 30 km. Donc ça fait aussi partie de ces décrochements d'échelle. Voilà. Et un mélange de tout ça a fait que j'ai essayé donc d'aller voir de plus près. Mais même si on est dans une journée, disons, ou un après-midi un peu philosophique, disons là, j'avais pris d'emblée la décision que d'aller au fond de l'empirique, quoi, c'est-à-dire d'aller voir, toujours aller voir, jamais écrire un traité depuis ma chambre.
Mais en même temps, même si c'est empirique, est-ce que vous avez défini une sorte de méthode de travail, une sorte de quadrillage du territoire, hein? Quel a été votre mode opératoire pour...
La méthode, c'est là, il n'y en a pas d'autre, c'est la marche à pied, hein? J'adore cette phrase c'est Nietzsche, hein, mais Nietzsche cite Flaubert. Flaubert dit « On ne peut écrire et penser qu'assis. » Et le commentaire de Nietzsche, c'est « Je te tiens, cul de plomb. » Voilà. Et voilà, ma méthode, c'est ça, c'est-à-dire, pas nietzschéenne, mais ça serait complètement prétentieux ou déplacé de dire ça, mais en tout cas, elle est ça, c'est-à-dire que la méthode, c'est pas vraiment une méthode, c'est la marche à pied, pas seulement à pied d'ailleurs, mais aller voir, toucher, c'est tellement complexe, toute configuration d'objets, toute configuration de paysages, toute configuration d'êtres humains, c'est d'une complexité incroyable. Et donc on glisse, la plupart du temps on a autre chose à faire, et là j'ai décidé que j'avais rien d'autre à faire que de regarder, d'essayer de comprendre. Et d'essayer de comprendre notamment cette histoire, que le mystère de la tonalité locale. C'est-à-dire, on est dans une ville, et puis il y a quelque chose qui est là et qui n'est pas ailleurs. Là, récemment, j'ai eu le plaisir d'être en Chine, et j'ai remarqué que beaucoup de gens, y compris les Chinois, disent « Oh, maintenant, toutes les villes de Chine se ressemblent. » Eh bien, ce n'est pas vrai. C'est vrai en apparence, c'est vrai si on va très vite, si on va très vite de l'aéroport à l'hôtel, et puis de l'hôtel à je ne sais pas où, au monument historique du coin, évidemment que ça a le genre de la ville moderne récemment édifiée avec tout un vocabulaire formaté, tout ça est vrai. Mais dès qu'on prend soin de marcher, dès qu'on prend soin d'aller lentement, on se rend compte que Wuhan n'a rien à voir avec Chengdu, qui n'a rien à voir avec etc. J'ai eu le plaisir de pouvoir vérifier ça, et c'est exactement pareil, c'est différent partout. Et en même temps, toutes ces différences chinoises, elles forment quelque chose qu'on appelle la Chine. Mmh. C'est une identité. Et l'identité au sens de Fernand Braudel, hein, il a publié un livre qui s'appelait L'identité de la France, personne n'avait protesté à l'époque. Ouais. Donc ça existe quand même. Et essayer de comprendre ça, et essayer de comprendre que justement cette chose-là, c'est pas cette chose qu'on va enfermer même dans une boîte, mais que c'est un devenir, que le pays est un dépaysement continu. Mais que pour le comprendre, il faut aller le voir, aller le toucher, apprécier la force de ses devenirs, etc., etc.
Mais comment vous retrouvez dans des lieux aussi différents, dispersés, qu'une petite fabrique de filets de pêche à Bordeaux, en passant à un petit cimetière abandonné dans l'est de la France? Ce qui est compliqué, c'est finalement qu'on se demande même, en lisant le livre, mais comment il s'est retrouvé là? Et c'est ça aussi ce qui est toujours un peu troublant. Parce que par définition, vous échappez un peu à tous les lieux un peu, disons, oui, emblématiques, qui dessineraient justement ce que serait la France, et le mémoire, comme on le disait autrefois. C'est-à-dire quelque chose, vous êtes nous. Et comment on les trouve, quoi, bien, tout simplement? Il y a un côté un peu explorateur, un peu étrange aussi.
Bah, non, c'est-à-dire.
C'est des hasards ou...
Non, c'est des logiques d'enclenchement. Moi, j'aime bien ce mot enclenchement. Ouais. Hop. Donc, on conduit, quoi. On conduit, on comprend. Hop. Maintenant, on est en seconde, on est pour la première. Et ça, il y a des logiques d'enclenchement, oui, qui sont à partir de choses infimes, ayant cette idée, c'est-à-dire à partir de l'épisode que je raconte de la visite à mon beau-père, à mon futur beau-père, il était futur beau-père à l'époque, j'ai pris dans un cahier, j'ai noté des lieux qui me semblaient pouvoir être les bons endroits pour faire ce livre. Il y a un certain nombre d'endroits qui étaient dans ces listes où je suis allé, mais évidemment que plein d'autres sont arrivés en chemin, ne serait-ce que par exemple quand je suis allé en Lorette, je pensais faire 2 chapitres et puis j'en ai tombé 5, ou quand j'ai eu l'idée d'aller et par exemple je donne toujours cet exemple, mais il est caractéristique, j'ai eu l'idée d'aller à Origny-Sainte-Benoîte dans l'Aisne. Pourquoi ? Parce que dans un passage de Stevenson, des fois ça vient d'un livre. Mm-hmm. Stevenson, avant d'écrire son livre assez connu, Voyage avec un âne dans les Cévennes, il a écrit un livre qui s'appelle, que traduit comme ça en français, c'est pas terrible, on dirait un livre un peu de campeur, en canot sur les mers, en canoë sur les rivières du Nord. Mais le titre anglais m'échappe, là, je le mentionne, mais il est beaucoup plus beau. Mais en tout cas, il a fait 1000 km de Anvers au Havre avec son copain sur des barques. Et puis, il raconte un épisode très beau qui se passe à Origny-Sainte-Benoîte au bord de l'Oise. Et je suis obligé de résumer, mais ça se termine par le matin. Ils disent à 3 jeunes filles qui leur disent adieu comme ça depuis la rive. Évidemment, on pense immédiatement, bien que ce ne soit pas tout à fait la même époque, c'est un peu avant. Vous êtes au Vert d'Apollinaire, vous êtes si jolie, mais la barque s'éloigne. Je pense à ça. Puis, je ne sais pas, il y avait aussi, parce que je savais que c'était le pays des betteraves, que ce n'est pas des endroits très charmants, etc. Je me dis, tiens, je vais aller. Et paf, je vais à Origny-Sainte-Benoît. Et je m'attendais à ce que ce ne soit plus comme si bucolique que ça. D'ailleurs, ça n'était pas tant de son temps, déjà, parce que. Et je tombe sur la plus grosse usine au monde de transformation de betteraves en bioéthanol. Mais à l'endroit même où...
Que vous ne connaissez pas
alors. Ben non, je ne connaissais pas. Et puis étant là, donc forcément, je me suis intéressé à la question des betteraves, du sucre. Donc un seul objet comme le sucre, c'est un moyen formidable d'explorer le territoire. Et je ne savais pas avant ça pourquoi les usines de sucre se trouvaient toujours dans les champs. Parce qu'il se trouve que la betterave a une durée, le sucre de la betterave a une durée de vie extrêmement faible, donc il faut l'emmener très très vite. Pour ça que des choses.
Donc là, vous vous transformez quasiment en enquêteur journalistique, presque.
Non, journalistique, jamais. D'accord. C'est un mot qu'il ne faut pas. Jamais. Rien à voir.
Vous intéressez au sucre, c'est quand même ça.
Oui,
c'est technique.
Oui, mais je ne suis pas censé faire un article dans le monde économique ou okay.
Sur la méthode. Mais dans la méthode, vous explorez une question.
Je regarde un peu, c'est-à-dire, il y a des livres, il y a même des fois, je l'avoue, Google, etc. On regarde un petit peu.
Mais bon, vous travaillez combien de temps sur une question comme celle-ci? Enfin, c'est le procès de comprendre.
Très vite.
Ah oui, d'accord.
Très vite, et alors justement, mais ce que je voulais dire, c'est étant là, je me retrouve à Origny-Sainte-Benoît de Sénat, pour y aller, il n'y a pas d'hôtel là, donc je dors à Saint-Quentin. Saint-Quentin me donne plein d'idées, je vois le panneau qui emmène à Bourg-en-Bois, je me dis je vais y aller, parce que premièrement, la petite ville natale de ma mère, et puis j'étais allé une seule fois. Et puis, c'est l'endroit, ça je ne le savais pas, la première fois que je suis allé, c'est l'endroit où Matisse a passé les 20 premières années de sa vie. Là, Matisse, le peintre solaire par excellence, il a 20 ans dans les betteraves. Hein. Mais dans cette petite ville, c'était un centre textile extraordinaire, on faisait des merveilles. L'irruption de la couleur dans sa pensée de jeune homme, d'adolescent très malheureux, parce qu'il était fils d'un marchand de grains, il ne voyait pas l'horizon s'ouvrir pour lui, ce qui l'a sauvé d'une certaine manière, c'est la vision de ces textiles-là. Donc ça m'intéressait. Et puis tout près de là, il y a la ville de Guise, ou Guise, comme disent les gens là-bas, avec le Familistère. Donc en tricotant tout ça, j'ai fait un chapitre qui s'appelle Le Familistère et la danse. La danse est évidemment le titre du tableau de Matisse.
C'est ça.
Et si vous voulez bien, ça me fait penser, puisqu'on demande pour venir ici, pour faire cette séance, on demande d'amener 3 textes.
Ouais.
Donc ça me fait penser, je vais lire le premier,
bien sûr.
Parce que c'est, ça donnera une idée de la méthode. Et ça, c'est un texte qui me plaît énormément. Pour moi, c'est exemplaire d'une méthode et de ce qu'elle a d'impossible. Donc évidemment, il faut transcrire, puisque là, il ne s'agit pas du tout d'un écrivain, mais d'un homme que je trouve magnifique, qui s'appelait André Leroy-Gourand. Hein. donc le plus grand penseur, on peut dire, de l'homme d'avant l'histoire, qui est souvent décrié aujourd'hui par toute une bande de gens de laboratoire, disons.
Pourquoi d'ailleurs?
On lui reproche d'être... Ben, comme à Bataille, c'est pareil, on lui reproche d'avoir pensé. Voilà. Et en tout cas, et ça caractérise extrêmement bien pourquoi et donc c'est un livre de jeunesse, c'est même pas un livre d'ailleurs, aujourd'hui on trouve ça dans un livre qui s'appelle, un titre qui n'est pas terrible, Page oubliée sur le Japon, on dirait un peu le livre d'une comtesse machin, mais il a commencé sa carrière en allant au Japon, c'était terrible puisque c'était les années 38-39, et le Japon était un pays fasciste à l'époque, mais lui faisait son travail d'anthropologue et ses recherches, et puis il était assez extrêmement solitaire, et il écrivait régulièrement, son nom m'échappe, excusez-moi, je voulais le relire avant, puis j'ai pas eu le temps, et étant une journée un peu plus précipitée que je ne lui souhaitais, et il écrivait régulièrement à, disons, une personne plus âgée que lui, un mentor, comme on dit, mais pas, j'aime pas le mot, alors quelqu'un avec...
Hein,
oui, mais plus âgé que lui, à qui il se confiait. Et voilà ce qu'il lui dit dans une lettre, qui raconte un peu. Voilà. Mazon est un slavisant, un philologue élève de Boyer et un des meilleurs russisans d'Europe. Il m'avait chargé, il y a déjà presque 10 ans, d'étudier à son cours une des chansons épiques du répertoire de l'Oural. Il m'a guidé pendant 2 ans dans ce qu'on appelle encore le folklore, pourquoi pas d'ailleurs, et m'a promené de l'Inde au détroit de Béring. C'est à lui que je dois d'abord d'estimer très hautement les sources orales et écrites, ensuite de les considérer comme insuffisantes. Il nourrissait l'espoir de me faire slavisant, comme Granet, celui de me voir sinologue, et Mauss, celui de me sentir sociologue, puis plus tard Rivet, de m'incorporer ethnographe. Ils ignoraient tous trois qu'au même moment, je suivais l'idéal de mes 12 ans, dépiautant des souriceaux et mesurant des crânes de rhinocéros en cachette dans la galerie du muséum. Je reste prisonnier du démon expérimental. Pourquoi ai-je eu l'idée de lancer un harpon avec un propulseur esquimau et de dire ensuite à Rivet que depuis 50 ans, les manuels publiaient un dessin sur lequel un esquimau lettré se prépare à transpercer la pointe de ses souliers à l'exclusion de tout autre gibier? Pourquoi ai-je écrit les 20 pages de l'homme et la nature dans le tome 7 de l'encyclopédie en recommençant toutes les expériences, en manipulant tous les outils, même l'herminette de pierre et les bois à faire du feu, jusqu'à ce que j'obtienne les mêmes résultats que l'indigène? Pourquoi ai-je taillé des dizaines de silex jusqu'à faire un grattoir solutréen classique pour voir à la fin métro que j'aime? Pourtant, les sous-stèles déclaraient leur scepticisme à l'égard des percussions et autres pertes de substances. Je manque complètement de souplesse dans les rapports sociaux, mais j'arrive à tirer très proprement 3 notes d'une conque marine de Polynésie. Et on a quelques raisons de penser que je parle en connaissance de cause de la position des lèvres et de la langue. Je sais très bien ce qui vous arrive au pouce si vous tenez le rabot japonais à l'envers, et j'ai encore à la main gauche une petite cicatrice très régulièrement causée par un maillet de menuisier qui n'était pas d'appel. Je trouve absolument admirable. Et c'est même pas... C'est une lettre qu'il écrit, mais en même temps on voit qu'il s'épanche, qu'il est dans la solitude. Mais voilà, ça, comme méthode, c'est l'essence humaine, mais c'est en même temps... Je trouve ça extraordinaire. Ça me fait d'ailleurs beaucoup penser à un épisode qu'on trouve chez Jean-Paul Lyon et qui répond un petit peu à la question de méthode. Jean-Paul Lyon, vous savez qui c'est, je n'ai pas besoin de le présenter, mais dans ses mémoires, il raconte qu'à un moment, il est justement dans la Vallée des Rois et il a la chance d'avoir beaucoup, beaucoup d'ouvriers qui travaillent pour lui sur les fouilles. Et il les a munis d'un sifflet. Et à chaque fois qu'il trouve quelque chose d'intéressant, il siffle. Et alors, il raconte que ça ne va pas du tout, parce qu'il entend « ça siffle tout le temps et de partout dans toute la Vallée des Rois. Et ben c'est comme ça. Je ne dis pas que j'habite la Vallée des Rois, mais dès qu'on se met un petit peu de côté, ça se met à siffler de partout. Voilà. Évidemment, ce n'est pas des trésors qu'on trouve, mais ce sont des échardes, des indices.
Vous parlez de solitude? En l'occurrence, c'est comment dire, c'est un motif comme ça essentiel justement à le principe même de l'errance, de l'écriture. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez besoin ou qui vous aide, qui peut être une souffrance peut-être aussi?
Oh là là, non.
Non,
au contraire. Non. Non, non, c'est une méthode de travail.
Ouais.
Je dis pas que, par exemple, si on voyage à deux, à trois, plus, ça, je ferai du mal. Mais quoi qu'il m'arrive chaque année de faire un voyage avec les étudiants de l'école, ça m'amuse.
Ça, c'est un voyage solitaire.
Oui, 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 c'est des voyages solitaires. C'est pas vrai qu'on voit rien en groupe, mais bon, mais pour travailler, en tout cas pour écrire, c'est mieux tout seul.
Ouais.
Mais voyager à deux, c'est extrêmement plaisant, mais c'est autre chose. Mais on peut travailler quand même. Mais pour, si c'est dans le but de faire un livre comme ça, c'était pour moi.
Mais ça organisait comment ce voyage-là? C'était dans une seule traite ou c'est plusieurs
Oh, c'est plein de. Non, c'est plein de. Ben non, pas une seule. Non, non, parce que.
Sur combien de temps?
Deux ans et demi.
D'accord.
Mais deux ans et demi, d'abord je travaille dans cette école, puis j'avais plein d'autres textes à écrire, plein d'autres choses à faire. Et c'est des brusques incursions. Mais c'était très important pour moi que ce soit brusque. Mm-hmm. Un peu, la métaphore là, ce serait plutôt de l'ordre du prélèvement. Quoi. Mm-hmm. Même ce qu'on appelle en géologie le carottage. Quoi. Mm-hmm. Un carottage brusque, je ramène, je ne sais pas trop ce que je ramène. Et après, je décortique. Mais pas rester, justement, pas faire d'enquête comme un journaliste, aller voir les gens, tout ça. J'ai parlé à personne.
Ah oui?
Ah non, non.
Parler à personne?
Ben non, pour faire ce livre, non. Non, c'est pas un livre sur les Français, c'est un livre sur le mystère de quelque chose qui s'appelle comme ça. Comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on y entend, qu'est-ce qu'on y voit.
Seul le regard compte.
Ben, pour moi, oui, c'est-à-dire que mon modèle, en l'occurrence, c'était même pas un modèle d'écriture, c'était plutôt, disons, un rapport que les photographes peuvent avoir, et pas n'importe lesquels d'ailleurs, que les photographes peuvent avoir au paysage. C'est-à-dire aussi ce qu'on appelle l'inconscient photographique, c'est Walter Benjamin qui a analysé ça le premier, même si ça avait été remarqué dès l'origine de la photographie, c'est quand on prend une photo, il y a plein de choses qui viennent s'imprimer qu'on n'a pas vues. Et c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Alors évidemment, si un écrivain se balade, moi je me balade, je prends pas de photos, mais si je prends des notes, etc., je note ce que je note. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la prise. C'est-à-dire, et dans l'intuition qui est dans les notes, sinon après j'écris, évidemment je développe tout ça, mais très souvent la force elle est dans l'intuition qui est dans la note. Après, c'est même le travail, c'est d'essayer de ne pas la diluer.
Ça, vous prenez des notes en l'occurrence. Cartier-Bresson parlait de photographie, Cartier-Bresson parlait de l'instant décisif. Est-ce que vous, dans votre regard, invente un dispositif, des règles, disons une méthode de regard?
Non.
Vous les imprégnez par un endroit?
Non, c'est plutôt. Bah oui, c'est plutôt forcément. C'est plutôt comme de descendre, quoi. Hein, on descend, et puis on se laisse envahir par le. Par les lieux et on essaye d'entendre au moins, puisqu'on ne peut pas aller, mais d'entendre tous ces coups de sifflet là, et puis d'essayer de les relier entre eux, de voir ce qu'ils racontent.
Vous les restituez dans l'écriture pour l'instant même ou vous attendez?
Parce qu'ils ne sont pas préorganisés, ils ne se structurent pas en récit d'eux-mêmes. Et moi ce que je pense, et ça ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais ça vient énormément de Walter Benjamin d'ailleurs, je pense que le passé ne meurt pas, le passé ne s'éteint pas. Ce n'est pas une question d'archéologie, c'est surtout pas une question de devoir de mémoire, mais où qu'on aille, surtout sur des terres travaillées, retournées mille fois par l'histoire, comme c'est le cas de l'Europe occidentale et de la France, eh bien, quelque chose est là. Quelque chose est là de ce qui a eu lieu. Quelque chose comme un dépôt, un film, qui n'est pas non plus la patine, qui est autre chose, et qu'il faut tenter de percevoir. Et c'est assez évident, c'est assez évident, par exemple, là où il y a eu tragédie. Et c'est, là, pour moi, c'était l'évidence même, c'était les champs de bataille de la guerre de 14-18, où près d'un siècle plus tard, on peut pas aller là où c'est à peu près à l'état, si on peut dire. Peut-être que c'est conservé, puisque vous le savez bien, après la fin de la guerre, il n'y avait plus un arbre. Aujourd'hui, ce sont quasiment des forêts. Donc ces forêts font vraiment, pour peu qu'on s'y promène, elles font un effet de linceul. Et ce n'est pas du tout enflé de dire ça. Il y a un linceul qui couvre ces régions, et puis on voit que le sol, il n'est pas normal, il est bosselé, et puis tous les 3 km, il y a un cimetière, Croix-Blanche allié, Croix-Noire, un cimetière allemand, que tout ça se bouge comme ça, la nature reprend ses droits, comme on dit, là où on les lui a particulièrement enlevés. Mais un siècle après, on a l'impression une vibration de et c'est pas un souvenir, hein, c'est plutôt comme un présage. Donc ça, et réellement, par exemple, l'endroit qui est pour moi le plus terrible, le plus dramatique, est le lieu-dit des Éparges, où les trous de bombe sont des entonnoirs de plusieurs dizaines de mètres de diamètre, où là, la végétation ne repousse pas, elle repousse autour. Donc on est là, on y passe une heure, deux heures, trois heures. J'y suis allé que deux fois. Et les deux fois, je suis parti, je dirais presque en courant. C'est-à-dire, comme si. Voilà. Donc ça, là, c'est évident. Mais il y a des endroits, heureusement, où la chanson est moins tragique. Par exemple, ce que j'ai essayé d'identifier en allant sur les traces de Courbet aux sources de l'Allier. Mais c'est vrai que c'est pas tant la culture que je peux avoir, la connaissance que je peux avoir de l'art de Courbet, c'est que quelque chose de ce qu'il a vu s'ouvre, jaillit, continue de jaillir. Donc voilà.
Donc l'épaisseur de l'histoire est quand même un peu, disons, en permanence dans votre mode d'observation. C'est ça qui vous semble fort, peut-être, ce qui pourrait caractériser en partie, disons, peut-être qu'est la France, de cette manière.
Non, parce que j'imagine que. Non, je pense que c'est exactement pareil dans pas mal de pays. C'est exactement pareil dans pas mal de pays. Mais si vous voulez, par exemple, et même partout en fait, mais par exemple, j'y pense souvent en ce moment, les fameuses songlines, c'est-à-dire que les aborigènes d'Australie, qui n'ont pas de, comme on le sait, de langage écrit, mais qui ont un langage pictural extraordinaire, mais surtout, ils ont un rapport oral. De connaissance de leur territoire. Ce qu'on appelle les songlines, c'est qu'en suivant un certain chemin, on va chanter un certain chant, en prenant un autre chemin, on va chanter un autre chant, en bifurquant, etc. Donc la terre est un chant qu'on connaît par les pieds et qu'on chante par la voix. C'est extraordinaire. Il est évident que nous n'avons plus ça. Il ne s'agit pas de regrets, de nostalgie, nous n'avons plus ça. Mais je crois que c'est très important de retrouver des fonctionnements avec les outils qu'on a, y compris les outils les plus récents, ceux-là, de retrouver de telles résurgences. Hein, le grand mot du livre, c'est résurgence. Pour ça, j'étais très content, puisque la loue, je ne le savais pas, d'ailleurs, c'est une résurgence, pas une source. Et pour peu qu'on soit attentif, ça ressurgit. Et être attentif à ce ressurgissement, c'est un petit peu le contraire, justement, de ce qu'on appelle le devoir de mémoire, où on vous prédispose à vous souvenir, ce qui est absurde. Un souvenir n'est jamais prédisposé, c'est comme une bulle qui éclate. Mm-hmm. Voilà. Et donc, de l'histoire, il y en a partout. Je veux dire. Pour un aborigène, c'en est plein. L'Australie, pas pour nous, mais pour lui, oui. Et ici aussi, sauf qu'on glisse dessus, on voit des panneaux indicateurs, 13e siècle, 12e, mais ça ne veut rien dire. Voilà.
Et je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait que vous aviez parlé à personne. Et de toute manière, parce que je trouve ça quand même, pour le coup, à la fois hyper intéressant et en même temps assez inédit, justement, dans cette méthode-là. Parce que c'est en ce sens-là, peut-être que vous distinguez d'un travail plus ethnographique, plus classique, entre guillemets. C'est que finalement, même essayer de comprendre la France sans entendre les échos de ceux qui y vivent, c'est quand même une méthode, pour le coup, assez iconoclaste. C'est que vous n'avez même pas envie, quand vous êtes dans des lieux comme ça, d'entendre comment les gens même vivaient leurs usages.
Si, mais je le vois. Ouais. Je le vois. Que ce soit. Je ne sais pas pourquoi, quand vous me dites ça, je vois deux endroits. Je vois le Café des Sports à Jean de Lincourt, dans la Meurthe-et-Moselle.
Ouais. Très connu, sûrement.
Qui est un café qui fait pizzeria le samedi, seulement. Et qui est où il y a une petite télé avec des.
On l'imagine.
Des chanteurs, enfin, quand on met.
C'est. Oui, un jukebox.
Pas vraiment.
Ça existe vraiment.
Et puis un jukebox, hein, c'est Nias Copiton, je ne sais plus quel nom ça a de nos jours, ça c'est des vieux noms. Non. Et en tout cas, il y a ça. Et puis, là, je me mets dans un coin, je regarde, c'est pas le samedi, c'était pas le jour pizza, il n'y avait pas grand monde. Et puis je vois ça, c'est un endroit, ce village-là, c'est un endroit déprimé, comme souvent c'est le cas, où il y avait une énorme usine de tuiles, de tuileries, qui est abandonnée, mais le site étant un site de terre argileuse, est réutilisé pour un énorme site d'enfouissement de déchets. C'est classé Céveso dur. J'étais allé là, parce que ça m'intéressait de voir ce genre d'endroit aussi. J'étais déjà allé autrefois, pour l'école d'ailleurs. Et je suis retourné là. Et dans ce café-là, si vous voulez, si je franchis le pas et que je fais le sociologue ou le journaliste, que je vais demander au patron, alors il n'y a pas de monde en ce moment, et puis comment c'était avant, etc. Bien sûr que je vais obtenir des renseignements, et bien sûr qu'ils me conduiront à un certain type d'écriture et à un certain type de discours. Mais moi, ce n'est pas celui que... c'est même pas qui m'intéresse, parce qu'à la limite, ça m'intéresserait aussi. Mais ce n'est pas celui auquel je suis apte. Mm-hmm. C'est-à-dire... et donc, je m'arrête avant, je regarde, je vois un rapport entre la... Je me souviens de la chanteuse, c'était Sinéad O'Connor.
Ouais.
Donc, déjà, cette mystérieuse irlandaise au crâne rasé, pas si mystérieuse que ça, mais enfin, comme ça, mais pourquoi elle est là, dans cette boîte, dans cet endroit, le café des sports, avec aussi cette chose assez désespérante autour, il faut voir ce que c'est qu'un site de dépollution de cette ampleur-là, dans un village si petit. Tout ça, ça se met à raconter quelque chose de soi-même. Donc, si je vais au-delà, voilà, je vais voir...
Non, en vous écoutant, ça me fait penser au... Vous avez vu les photographies d'un monde pardon qui... Justement, qui a photographié la France.
Oui, oui.
Ou pareil, je vous demande même s'il n'y a pas un café d'espoir d'ailleurs dans
sûrement, voilà. Sûrement, mais ce ne serait pas le même.
Ouais, mais en même temps, on sent un peu ça aussi. C'est-à-dire que,
non, voilà, lui, il parle à tout le monde.
Oui, il parle, mais en même temps, son image dit beaucoup de choses avec peu de choses. Ouais. C'est sûr que voilà, il y a juste un café à l'angle d'une rue, une personne passe devant. C'est,
oui, oui, bien sûr, mais c'est la photo. La photo, elle est comme ça, pour ça. Elle est, elle est muette, quoi.
Mais vous disiez tout à l'heure que le lieu était déprimé comme souvent. Quelque chose que vous pouvez définir ou qualifier, ou vous avez senti même, est-ce que vous avez trouvé la France comme un pays, j'allais dire, déprimé, triste, ou est-ce que vous avez senti que c'était un pays un peu, disons, joyeux? Comment vous, par rapport à cette question-là,
déjà,
on parle souvent d'un pays aujourd'hui un
déjà,
peu...
Déjà, j'ai essayé à aucun moment dans le livre de dire la France est comme ci, la France est comme ça.
Je sais. Hein, donc, c'est pour ça que je pose la question pour le bien.
Donc je ne peux pas trop dire ça, mais ce que je peux dire, c'est que quand même très souvent, dans des endroits pas forcément, qui ne sont pas forcément les endroits où il y a la misère, parce qu'il y en a des endroits où il y a la misère, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup quand même. Mais dans des endroits même, disons, cossus, on sent une espèce de, comment dirais-je, de repli ou d'absence d'énergie. Voilà, je parle même, je me souviens de cette formulation à propos, c'est des petites villes, c'est le verbe aux encives, en d'autres pas, je parle de intégrisme de la modération. Mm-hmm. Une espèce comme ça, et ça finit par se ressentir, quoi. Et j'ai beaucoup travaillé, évidemment, avec un sujet pareil, j'ai été beaucoup sur les frontières, dans ce qu'elles peuvent avoir d'absurde, mais aussi dans ce qu'elles peuvent avoir de réel. Pourquoi d'un côté ça s'appelle comme ça, pourquoi d'un côté on parle une langue, de l'autre côté ça. Un vieux problème qui a intrigué Vérité en deçà, Erreur au-delà, pour revenir à Pascal, et tout ça. Mais en même temps, je suis allé évidemment au centre, au milieu, et on s'aperçoit que finalement, il y a des endroits déprimés, il y en a partout. Hein. Mais il n'y a pas une énergie comme ça au centre. Même le centre est plutôt assez peu émetteur. Et disons que par rapport à justement l'histoire extrêmement tourmentée et parfois très dramatique et très belle de ce pays, on a l'impression qu'aujourd'hui on est quand même un petit peu... on ne peut pas dire qu'il dort sur ses lauriers, ce pays-là, c'est pas vrai. Mais on a l'impression que les lauriers sont en train de pourrir. Mmh. Un peu.
Mais est-ce que vous arrivez parfois, comment dire, à relier à la fois une ambiance générale, d'un territoire, à la fois sa vitalité peut-être économique, à son histoire personnelle, c'est en gros, est-ce que entre la Meurthe-et-Moselle et, je sais pas, les Midi-Pyrénées, ou j'en sais rien, les Pays Basques, vous voyez des différences, je veux dire...
Ça c'est sûr que je vois des différences.
Ouais. Alors comment vous qualifieriez à la fois les différences et ce qui les relie? Et disons peut-être qui...
Ben ça, j'ai pas répondu à ça, mais j'ai essayé de regarder comment ça marche, quoi. Et donc, en étant justement, par exemple, Il y a un chapitre qui est amusant de ce point de vue, puisque j'y étais sur la Bidassoa. La Bidassoa, c'est la petite rivière qui fait frontière entre un petit fleuve, puisqu'il se jette directement dans la mer, qui fait frontière entre la France et l'Espagne sur 10 km en fait. Et au milieu de cette Bidassoa, il y a une île qu'on appelle l'île de la Conférence, et qui normalement elle aurait dû être évacuée par étant alluviale, mais on l'a gardée, on l'a empierrée, parce que c'est là que a été négocié le traité des Pyrénées, c'est là aussi que Louis XIV est venu chercher sa femme, avant de se marier à Saint-Jean-de-Luz, etc., etc. Et le traité des Pyrénées, il a ce nom-là, parce qu'il fixe en effet la frontière de 600 et quelques kilomètres entre la France et l'Espagne, mais fixer la frontière entre la France et l'Espagne, ce n'était pas seulement les Pyrénées, c'était faire toutes les frontières du Nord, de telle sorte que c'est dans cette petite île de la Bidassoa que, par exemple, a été scellé le sort de villes comme Longuillon, Montmédy, etc., qui sont des villes du nord du département de la Meuse, où je suis retourné récemment. Et évidemment, là, donc je suis allé voir, et puis je suis allé, pour le livre, je suis monté dans la petite pointe pas loin de cette région, qui monte dans la Belgique, qui s'enfonce dans la Belgique de cette façon, c'est la Meuse, la vallée de la Meuse, et avec la ville frontière, qui est la ville de Givet. Et alors, là, mais une des choses que je découvre, à Givet, G-I-V-E-T, J-I-V-E-T, eh bien, par exemple, là, je découvre que c'est la ville natale de Méhul, donc l'auteur du chant du départ, l'hymne patriotique par excellent. Et puis je regarde la Meuse, parce que c'est très intéressant, cette rivière. D'abord, elle est aussi longue que la Loire, sauf ce que peu de gens savent. Ensuite, c'est une rivière qui est absolument non frontière, puisque la frontière entre la France et la Belgique coupe le fleuve. Alors qu'avec le Rhin, c'est différent, puisque il y a voilà, comment marchent les fleuves, par rapport à ça. Et donc, ces questions de là, j'ai un peu perdu le fil. Et c'est marrant parce que justement, là je dis j'ai perdu le fil, mais dans mon livre, le fil, ça a presque tout le temps, pas tout le temps, mais très souvent été la rivière. Ouais. Parce que justement, ça, c'est le meilleur indicateur pour visiter un territoire. En fait, mon guide, c'était l'eau.
L'eau est permanente.
L'eau, bah oui, parce que si vous faites tomber une goutte d'eau comme ça, la pente gravitaire, il y a une espèce d'intelligence de l'eau qui cherche son cheminement et qui le trouve. Et elle crée un espace qui va être le sien. Et c'est ce qu'on appelle un bassin versant, etc. Et donc quand on descend en la suivant, on est forcément déjà dans une lecture du pays, la lecture que l'eau a faite, hein, et qu'elle continue de faire sous nos yeux. Et là, c'est des pénétrantes du territoire qui sont absolument formidables. Et par exemple, donc, je note, ça je l'avais noté, ça fait partie de mon cours à l'école de Blois, mais de noter que, c'est marrant, j'ai pas vu ça dans tellement d'ouvrages, pourtant il y a une école de géographie formidable, on pourrait dire la France est le pays où aucun fleuve, où aucune rivière ne va vers l'Est. Ouais. Sauf les tout petits machins qui descendent du Massif central pour se jeter dans le Rhône, ou des Pyrénées orientales pour se jeter dans la Méditerranée, mais ils ne sont pas grands, ils ne comptent pas comme bassin versant. Mais tout ce qui est bassin versant important, la Garonne, la Seine, la Loire, ça part vers l'ouest. Il y a le Rhône qui, comme vous le savez, descend plein sud, et la Meuse et la Moselle, et le Rhin qui part plein nord. Vers l'est, rien ne va. Donc c'est vrai que la France tourne le dos au continent, ouais, par son mouvement. Et après, on fait des réflexions, on se dit, imaginez que la Tamise aille dans l'autre sens, l'histoire aurait été complètement autre. Ou imaginez que le Pô n'aille pas vers l'Adriatique. Hein. L'Italie serait un autre pays, etc. Donc il n'y a pas de raison de ne pas réfléchir sur ça.
Cette sensation que vous êtes faite pendant ce voyage ou...
Non, non, ça, je ça faisait, ça faisait. Mais disons, ce que j'ai découvert pendant ce voyage, c'est à quel point les cours d'eau étaient de très précieux indicateurs. Aussi, quand on regarde, bon, dans le livre, je m'amuse à suivre un peu le Loir. Enfin, la Loire, elle est là, forcément, mais le Loir, c'est pas grand, le Loir. En plus, c'est marrant, parce que son nom de petit animal endormi, eh bien, ça lui va très bien. Mais en même temps, c'est le Loir, c'est la Vivonne de Proust. Puis après, il passe justement à Vendôme. Là, il est chez Balzac, là où Balzac faisait ses études. Après, ça, on va chez Ronsard. Et quand on fait ça à Proust, Balzac, Ronsard, il est clair que ça raconte quelque chose qui n'est pas du tout espagnol ou russe. Hein. Et en même temps, voilà, il n'y a pas besoin de raconter, de devenir nationaliste ou patriotique avec ça. C'est comme ça. Et je me suis amusé à regarder, je ne sais plus où c'est, je me suis amusé à regarder le nom des affluents du Loir, justement. Ouais. Et là, c'est vrai que on entend le chant de la langue. La rive droite, c'est donc les affluents rive droite du Loir, Lausanne, la Yerre, l'Aigvonne, le Boulon, la Braye, la Nille, le Tusson, la Veuve, le Dinan, l'Aulne, le Cassot. Rive gauche, la Tironne, l'Aigre, la Conille, la Sandrine, le Couëtron, l'Étensor, l'Adème, les Scotais, la Maule, la Marconne et la Brise.
Ouais,
c'est un total dépaysement. Parce que la langue est dans une espèce d'innocence. Et ça, c'est le contraire, disons, justement, du patrimoine pour moi.
Ouais.
Parce que c'est l'eau qui court, c'est rien d'autre.
Ouais. Est-ce que des lieux que vous avez explorés ont généré une forme de non-inspiration, comme si vous étiez presque incapable d'en tirer quelque chose, quoi que ce soit? Vous êtes parti d'un lieu sans y avoir d'idée. Chaque lieu, forcément, génère une culture.
Attendez, non, je crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait eu des petits endroits que je trouvais. Il y a des endroits qui se sont révélés très différents de ce à quoi je m'attendais. Mm-hmm. Il y a des endroits qui m'ont déplu, disons, des endroits que j'ai détestés peut-être.
Ah, non. Qu'est-ce qui me déplaît?
C'est pas un lieu, c'est des endroits où j'ai eu du mal à trouver qu'il y avait une possibilité de recommencer quelque chose. Je trouve des endroits qui ont l'air bloqués, quoi, fermés, puis qui n'ont ni. Je dis ça même. Je dis ça pour la malheureuse ville. J'ai reçu une lettre d'insulte d'un habitant de la ville de Culoz dans l'Ain. Je dis dans le livre qu'on ressent, je dis pas il n'y a pas, mais je dis on ressent qu'il n'y a ni présent, ni passé, ni futur. Et c'est la sensation que j'ai eue. Et j'y ai eu dans quelques autres endroits. Mais à aucun, justement, c'était très important pour moi aussi que le livre tombe surtout pas dans un genre que je déteste, qui est le genre de la dénonciation haineuse, avec ironie, etc., qui est un genre très pratiqué en France d'ailleurs. Et qui est ce qui me gêne parfois d'ailleurs, même chez un grand écrivain comme Thomas Bernard. À force d'être tellement. On voit que. Il n'arrive pas à se décoller de la mer Autriche, d'une certaine façon, tellement, et voilà. À mon avis, hein, mais donc ça, je ne voulais absolument pas ça. Mais pour répondre à votre question initiale, qui était, est-ce qu'il y a des endroits... il y a des endroits que je n'ai pas traités dans le livre. Et donc là, ça répond où je ne suis pas allé, c'est-à-dire qu'ils ne m'ont pas semblé de nature à... Comme les Alpes, par exemple, ils ne sont pas là. Un peu embêtant, mais et puis il y a des endroits que je regrette de ne pas avoir traité. Je vous ai dit Sarcelles. Aussi, je regrette qu'il n'y ait pas un chapitre spécifiquement sur la Côte d'Azur. Mm-hmm. La Côte d'Azur, non pas côté Carlton et tout ça, mais un côté plutôt arrière-cour, garage, mm-hmm. station-service.
Et pour rebondir sur ce que vous disiez sur le fait de détester les endroits, enfin, ou de choquer les gens qui y habitent, il y a eu pas mal de polémiques ces derniers temps, justement sur la manière de décrire un territoire. Et souvent, on en a besoin du mal. Et je pense par exemple à un anthropologue qui s'appelle Éric Chauvier, qui a écrit un livre qui s'appelle Contre Télérama, qui réagissait justement à un dossier qu'a fait le journal sur la France moche, qui décrivait justement un peu tout normalement toutes les zones périurbaines, commerciales, tout ce qu'on connaît, etc. Et qui a prévu en effet, n'ont pas l'air de dessiner un horizon esthétique extrêmement excitant. Et donc le papier était là-dessus. Et lui, il se sentait justement assez heurté, précisément comme quelqu'un qui habite dans ces territoires et qui a envie de les défendre. Est-ce que vous pensez justement, c'est une question qui est importante aujourd'hui, c'est justement d'avoir un jugement comme ça, un peu distancé sur un territoire, c'est compliqué
ou... En tout cas, moi je pense que, oui, la France moche, tout ça, ce genre de dossier, je trouve ça atroce. Mm-hmm. L'idée même. Et il y a des ans, parce que, récemment d'ailleurs, j'ai fait un tour tout un jour en banlieue, la banlieue dont on parle mais où on ne va pas tellement quand même. Donc à Clichy-sous-Bois, Villiers-le-Bel, les 4000 à la Courneuve, etc. Avec un ami, on est allé se promener. En faisant attention, c'est des endroits où il ne faut pas aller, mais il y a beaucoup d'endroits où on peut aller. Et d'une part, et puis d'autre part, récemment je suis allé justement dans ce coin-là du nord de la Meuse. On est au nord de Verdun, il pleuvait en plus, et c'est des villes très 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 tristes, c'est-à-dire le taux de chômage, Longuillon, Médis, ce genre de moment-là, le taux de chômage doit être à peu près, est supérieur à ce qu'il est dans les sites industriels de Lorraine qui sont à 30-40 km un peu plus à l'est. Il y a un fond comme ça de tristesse rurale qui brumeuse comme ça, qui englobe ces habitats, et on rencontre les gens, enfin c'est des chômeurs comme ça, tristement vêtus. On sent vraiment là, comment dirais-je, le malheur, la misère et une tristesse. Mais se permettre de venir de Paris en intitulant ça la France moche, je trouve ça abject, quasiment. Parce que justement, dès qu'on regarde comment ça se passe et comment c'est, y a un autre café d'espoir d'ailleurs. C'est à une ville qui s'appelle Étain. Et Étain, comme ça s'écrit comme le métal. Et Étain, c'est pareil, c'est très, très déprimé comme ça. Mais dans ce café, il y avait quelque chose de sympathique. Et puis, aussi dans l'église, qui n'a rien de bien particulier, il y avait, et vraiment, s'il y a bien quelqu'un qui est à des années-lumière, je peux dire, de l'émotion envers le catholicisme, c'est moi. Mais en même temps, il y avait, dans cette église, il y a une admirable sculpture de Ligier Richier. Ligier Richier, qui est un, je ne comprends pas qu'il soit pas plus connu. Pour moi, c'est le plus grand sculpteur de la Renaissance. Et il a travaillé pratiquement uniquement dans cette région. Puis dans cette église, bon, c'est ça, je suis allé voir ça. J'étais pas seul là, c'était pas pour le livre. Mais il y avait aussi chose que je vois, qu'on voit plus tellement. Il y avait des enfants en aube avec des bougies qui allumaient des trucs, etc., protégés par des dames qui avaient l'air efficaces dans l'affaire. Et une espèce de mystère total, un peu comme si il y avait une petite goutte d'Espagne qui est tombée dans cette grisaille. Ça m'a énormément passionné. Et puis, de fil en aiguille, dans un beaucoup plus petit village, j'ai même l'intention d'écrire un petit truc là-dessus, mais je demanderai l'autorisation à monsieur le maire. On m'a présenté ce maire. Ce maire, il est éleveur, agriculteur, et il n'est plus maire maintenant, il est seulement adjoint, mais à l'époque où il était maire, il s'est battu dans un village qui a moins de 100 habitants pour maintenir l'existence d'une épicerie. Et puis ils ont fait passer une espèce de concours, et le couple qui tient l'épicerie, c'est un Marocain et une Bretonne qui vivent ensemble, et cette épicerie elle est extraordinaire, parce que c'est très rare, on trouve tout, c'est-à-dire même, j'étais épaté, on trouvait même des ramettes de papier, des palets, des choses à manger, et même un petit, comme il est Marocain, il fait un petit peu de pâtisserie orientale, et puis il y a un petit coin où on peut boire des cafés. Et là, dans ce petit village qui est c'est un village qui est en bordure de forêt, dans le département de la Meuse, près de Saint-Miel pour ceux qui connaissent, eh bien, ce lieu-là, ce petit lieu de rien, c'est incroyable ce qu'il fait, ce qu'il fabrique. Et même la façon dont le patron est présenté par les gens en même temps, etc. Alors qu'officiellement, quand on parle de ces coins-là, les gens ils regardent Front National 25%. Mais jamais on va parler de ce fonctionnement extraordinaire entre ce monsieur marocain et ces paysans qui sont autour de lui, etc. Et c'est un exemple, et moi je ne suis pas optimiste, hein, pas du tout, mais cet exemple existe. Et des exemples comme ça, il y en a des milliers et des milliers qui existent tous, et qui sont en train de coudre quelque chose de totalement inconnu, de ne pas raconter. Voilà. Donc moi j'essaye plutôt de voir des choses comme ça. Mmh. Parce que si je vais à Metz, je regarde, ah c'est où la cité où il y a des problèmes, c'est là, j'y vais, puis je reviens à Paris en disant, en effet il y a des problèmes. Qu'est-ce que j'aurais appris? Rien. Et qu'est-ce que j'apprendrais aux autres? Rien. Voilà un petit peu le fonctionnement. Après, je tire pas des grandes leçons, des grandes conclusions. À la fin du livre, j'ai mis une hypothèse qui m'a fait accuser de... M. Winkelkraut a dit que je voulais... Alors, mais pour vous, la France, ça va devenir comme le Brésil. Il m'a dit.
Ah bon? Oui. C'est bizarre, hein.
Mais je veux dire que, brusquement, il va y avoir beaucoup de gens... mêlé. Mais je lui ai demandé où était
vous avez dans son mission sur
oui.
Le
Oui.
Ah ouais, il est vrai, ça.
Oui.
Et vous parliez tout à l'heure des auteurs et tout qui vous inspirent. Bon, on parlait de texte tout à l'heure, mais il y avait également un auteur comme Stendhal, par exemple, a été, ou bon, Stevenson, on en parlait tout à l'heure aussi. Est-ce que ça, c'est des auteurs qui enfin, dont
ah ben,
important
non, mais évidemment, j'ai lu pas mal de choses sur la France, oui.
Ouais.
Mais oui, il y a des c'est drôle, il y a des livres qui ont très bonne réputation. Il y en a un, je le dis, parce que je l'ai trouvé tellement nul. Le livre de Henry James, Voyage en France, j'ai trouvé un livre épouvantable. Mais par contre, Stevenson, non, mais c'est vrai que celui dont je me suis servi le plus, c'est Les Mémoires d'un touriste de Stendhal, qui est vraiment un livre bon, qui fait c'est 700 pages, c'est vers la France en 1820, quoi. Mais c'est pour nous, c'est comme. Vous savez, quand il y a sur les. On visite dans les petites villes au bord des fleuves, il y a cru de 1912, on voit le trait. Ben, Stendhal, c'est comme ça. La France en 1820, il y a le trait. Et moi, ça me permettait de mesurer comme ça, des écarts ou des continuités, plutôt des écarts. Mais...
Mm-hmm. Il y avait un auteur qu'on salue ici, c'était James Agee. Qui était un auteur américain qui a fait un livre assez célèbre avec le photographe Walker Evans aux États-Unis. C'est un livre qui s'appelle Louons maintenant les grands hommes, qui est un grand livre de photographie documentaire très célèbre sur la pauvreté de la crise américaine dans les années 30. Et il avait écrit un texte qui s'appelle Brooklyn existe. Vous voulez qu'on lise ici.
Oui. Juste un mot sur ce texte. Il s'appelle Brooklyn Is. On l'a traduit comme ça. C'est comme je travaille dans l'édition, des fois on est content quoi, quand on fait exister un livre. Donc là, j'ai fait exister en français ce livre. J'en ai parlé à Dominique Beauvois qui a été immédiatement convaincu et qui l'a fait traduire et publier. Mais il faut dire que c'est intéressant parce qu'il avait eu une commande de la revue Fortune pour faire un truc sur Brooklyn. Et il a écrit un article qui est de 60 pages, qui est un poème en prose. Évidemment, Fortune l'a refusé. Et ce texte était resté inédit très longtemps. Il a été publié après sa mort aux États-Unis. Et c'est pour moi un exemple, c'est un des plus beaux textes jamais écrits sur la ville.
Et comme quoi, un article peut devenir un objet.
Oui, mais dans, oui, dans ce cas-là, oui.
Une jolie. Oui.
C'est la fin du livre. Ouais. C'est la fin du livre. Il a décrit toute la ville. Et puis à la fin du livre, il y a comme une stase un peu plus reposée au zoo.
Voilà. Ou tard dans la journée, dans le zoo, les ours noirs avec leur museau de vagabonds de votre ville, et les visiteurs qui les observent d'un œil affectueux, la fosse vide, les cris désespérés de l'ours blanc, ses yeux à demi fous de solitude, fixés sur la fosse des ours noirs. La lumière décline, devient plus douce, et un miracle s'opère chez certains animaux. Les taquineries et les étreintes charmeuses des ratons laveurs rondelaient et masquaient plein d'enthousiasme et le plaisir que doit procurer la lutte avec ses corps grassouillets, couverts de fourrure. La douve profonde où l'éléphant Hilda a été poussé par son farceur d'époux pour y mourir terrassé par une douleur sacro-iliaque et où il est tombé trop récemment. Cette cage où trois aigles d'un noir métallique, perchés sur un petit arbre décharné, accablés par une mélancolie déchirante, tombent maladroitement de branche en branche, tels des buses échouées sur le sol. Présenté aux enfants de New York par Legal, le quotidien de Brooklyn. Et dans le crépuscule, les cris angoissés de l'ours, bou, 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 et les bousculades et rigolades des joyeux ratons laveurs, et les kangourous, certains orangés et d'autres fauves, dont les yeux sont aussi ravissants que ceux des girafes ou des héroïnes victoriennes, qui se déplacent comme des fauteuils roulants, et les daims. Le crépuscule touche maintenant à sa fin, les réverbères s'allument, le ciel est une perle pure, il ne reste presque plus personne. Ces anarchistes royaux qui sont devenus des symboles du journalisme sont assis, presque immobiles. L'ours pleure encore, c'est le cri d'un bébé oublié dans le grenier d'une maison abandonnée. Dans leur course, les petits fans se transforment, ils ne se sentent plus observés, et ce n'est pas seulement cela, ils sont aussi saisis de part en part, dans leur cœur et dans leur corps, et par cette extase mystique à beaucoup de souffle que le crépuscule éveille en eux, et chez les chevreaux. Leurs yeux sont innocents, empreints de sainteté, comme ceux des boucs démoniaques. Se déplace avec des mouvements tendres et délicats de la tête et du corps qui évoquent des petits poissons, une rupture brutale, et il s'élance dans la terre meuble, le sableau affûté, le pas souple, bondissant, aussi précis qu'un burin ou qu'un air de Mozart. Au milieu de cette course, l'un d'eux saute très haut dans les airs, les pattes tendues, la queue frétillante, se tortillant sur lui-même, le corps parcouru par un spasme de plaisir fou, tandis que les kangourous marchent tranquillement et s'assoient sur leur table. Et maintenant même, la lumière décline rapidement, dans la joie de vivre d'un enfant vibrant de colère, dans un furieux dégoût de la mort même et éphémère, un fan défonce de nouveau sur la piste déserte, et à trois reprises escalade l'air et s'en félicite, et dans la clarté disparue du soir, longtemps assourdie puis montant peu à peu, insistante, résonnant à l'unisson des cloches cérémonielles qui carillonnent dans toute la périphérie de ce parc verdoyant et de ce monde, s'élève une lamentation sauvage, inépuisable, qui vous glace le fond du cœur.
Ouais. Évidemment, là, c'est aussi le schéma des animaux qui compte beaucoup pour moi. Et un peu moins que les rivières, mais ils m'ont servi aussi de guide.
Et sous quelle forme hein,
Là, il y a dans le livre, il y a deux chapitres qui leur sont consacrés. Ils s'appellent Du côté des bêtes, je crois. C'est ça. Un et deux. Puisque aussi, justement, un pays comme ça, il est habité par des hommes, mais pas exclusivement, même s'ils ont tendance à oublier. Et il y a d'une part ceux qui étaient là avant nous, ceux qui restent de ceux qui étaient là avant nous, et puis ceux que l'homme développe autour de lui, les animaux domestiques, mais ça fait du monde. Et il y a une coloration de cela, liée à tout un ensemble de traditions et de révolutions techniques récentes du monde rural qui est spécifique et qui a une existence en France qui n'est pas du tout la même qu'en Angleterre, qui n'est pas du tout la même qu'aux États-Unis, évidemment, dans des pays de climat très différents, comme l'Afrique ou l'Amérique latine. Mais c'était intéressant aussi à travers les animaux, pour moi, de sonder, si je puis dire, ce qui reste d'épaisseur rurale, voire sauvage, sur le territoire. Et c'est eux, évidemment, qui sont les indicateurs. Voilà.
Il y a une notion dont vous parlez souvent dans votre livre, que vous appelez les nouages, c'est-à-dire que les entrelacements, je ne sais pas comment dire ça, ça évoque un peu même, d'une certaine manière, pour en venir un peu à la philosophie, un peu le concept de rhizome chez Deleuze. Comment vous pouvez définir justement ces entrelacements dans votre mode d'écriture même, c'est-à-dire dans votre observation?
Déjà, le langage est entrelacement. C'est même Platon qui l'a dit, je crois. Sumploqué, nous rappelle. Eh bien, c'est-à-dire que à la seconde où on parle, on entrelace. Disons que la façon dont ça fonctionne, justement, les territoires animaux, ils se chevauchent, ils se recoupent, ils sont partagés, ils s'entrelacent, comme les ronces, ont un parcours, etc. Et il me semble que la richesse, tant du côté des végétaux que du côté des animaux, la richesse métaphorique de tout ça, c'est très utile pour décrire, au fond, le fonctionnement, je dirais même, non seulement de la pensée, mais de la façon dont on se déplace dans l'espace, etc. On a tendance à réduire nos déplacements en termes de position mécanique, de déplacement mécanique entre des positions fixes. On va du point A au point B par la route numérotant. Mais si on regarde, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ça peut se passer comme ça. Mais même si on le fait le plus en ligne droite possible, par exemple si on prend le TGV, le nombre d'événements qui se passent entre le départ et l'arrivée, le fait par exemple, ça me fascine toujours quand je vais dans le TGV, que je marche à l'envers du sens du train. Donc c'est absolument fou. On a un truc absolument incalculable, puisqu'on est à 300 à l'heure, mais on marche comme ça, dans un truc qui va à 300 à l'heure. Donc c'est comme si on marchait à reculons, en fait. Et si on se met à observer ça, puis on va à la fenêtre, c'est pas vrai qu'on voit rien du TGV, on voit un monde TGV. Il existe, il a une existence, une résonance, etc. Donc au fond, on s'aperçoit que on résume presque tout le temps, ou on simplifie presque tout le temps, et que c'est toujours extrêmement, extrêmement dense, extrêmement compliqué, extrêmement touffu, extrêmement ramuré, extrêmement. c'est pas moi qui l'invente. Mais, et donc le langage pour moi, c'est quand même c'est l'outil, peut-être pas le meilleur, mais c'est un outil qui a quand même cette capacité peut-être de mimer dans sa structure même ce qu'il explore. Enfin, c'est pour ça, ça donne des phrases souvent un peu assez longues, dans mon cas. Mais bon.
Vous enseignez ça à vos étudiants, Blois, c'est-à-dire que,
À Blois
à comment on regarde un paysage
Les étudiants, je tiens à le signaler, les étudiants de mon école ont voté la grève hier, une très forte majorité, parce que cette école qui est magnifique, il y a des gens qui, au ministère et à la direction de l'école, qui ont décidé de la transformer de telle manière qu'elle ne soit plus elle-même. Donc je tiens à le dire. Mm-hmm. Et c'est grave, enfin, c'est comme beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Et c'est une école où on apprend la définition d'école au départ, telle qu'elle a été conçue par le monsieur formidable qui l'a fait qu'elle puisse exister. Il s'appelle Jean-François de Boisquier, qui est à la retraite maintenant, obligatoire. Il était obligé de prendre sa retraite. Et puis l'équipe dont j'ai fait partie, qui est à l'OCCE, c'est une école où, on apprend à regarder. On apprend à regarder. C'est-à-dire que celui qui sort de cette école, ou celle, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles, il se retrouve ingénieur paysagiste, il se retrouvait jusqu'à présent ingénieur paysagiste. Ça ne voulait pas dire qu'il avait une compétence technique d'opérateur. Bien sûr, il l'a, mais avant tout, il était capable, disons, d'établir un diagnostic, avec une sensibilité comme un médecin. C'est un médecin qui palpe, qui touche, qui photographie, qui dessine, qui regarde, qui étudie, qui soupèse, c'est pas quelqu'un qui arrive avec. Voilà. Et donc, comme tel, il sait d'avance qu'il aura affaire à beaucoup de difficultés, parce que les gens de la direction départementale de l'équipement, parce que l'architecte qui n'a que son ego devant lui, rien d'autre dans le paysage qui l'intéresse, tout ça, ça va faire des obstacles à la réalisation, disons, d'une transformation du paysage, qui soit en douceur ou pas d'ailleurs, elle peut être assez violente, mais qui écrivent une nouvelle lisibilité ou une lisibilité plus grande. Donc pour produire de la lisibilité, il faut savoir lire.
Et comment on apprend à regarder en l'occurrence?
Ben, on apprend à regarder en regardant.
Ouais.
En regardant déjà, et en utilisant tous les outils possibles qui viennent au soutien du regard. La cartographie qui est formidable. Aujourd'hui, toute l'infographie qui est un outil qui peut être merveilleux, qui n'est pas du tout un méchant outil. Bien entendu, le dessin, on leur apprend à dessiner, pas moi, mais il y a des professeurs de graphie. Et justement, cette école, je l'aimais beaucoup, j'en parle déjà au passé, ou je l'aime beaucoup en tout cas, parce que justement, il n'y avait pas de hiérarchie entre leur apprendre qu'un autocar, il faut tant de mètres pour qu'il puisse se faire un demi-tour, mais en même temps, être capable de dessiner comme ça, la subtilité. D'un rapport entre des branchages et l'air où il se balance. Et à force, les écoles, c'est comme ça que ça existe, à force, les écoles finissent par devenir elles-mêmes. Encore là, un mystère. Pourquoi? Malheureusement, elle a subi une attaque de front que je trouve révoltante. Mais dans l'écriture de ce livre, ça a compté beaucoup pour moi, le fait que je sois professeur là-bas, d'ailleurs de façon générale, générique, puis aussi de façon précise dans certains cas, puisque dans des sites comme celui dont je vous ai parlé, Jean de Lincourt, le site d'enfouissement de déchets, c'est des sites que j'ai connus à travers, même pas à travers l'école, à travers des étudiants. Parce qu'en dernière année, c'est comme dans les écoles d'architecture, les étudiants de 5e année ont un an, à peu près, ou 10 mois, disons, pour réaliser leur diplôme. Et leur diplôme, c'est d'une part un mémoire sur le lieu qu'ils analysent, qu'ils ont choisi de traiter, et d'autre part, sur des panneaux ou avec des films comme ils veulent, ils ont leur projet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils feraient, qu'est-ce qu'ils proposent de faire pour guérir ou améliorer les choses dans l'endroit qu'ils ont choisi. Et des professeurs les encadrent, et à chaque fois, justement, je suis spécialiste dans l'encadrement dans la France moche, si vous voulez. Parce que, justement, ces endroits, moi, me paraissent beaucoup plus intéressants et émouvants. Et voilà. Et je ne vais pas dire, comme si j'étais un homme politique, et riche de potentiel, non. Hein. Ils sont riches tout court.
Ouais.
Pas de potentiel. Ils sont riches d'eux-mêmes.
Est-ce qu'on peut qu'on peut avoir un regard politique sur un paysage?
Ben un peu, mon neveu.
Ouais.
Oui. Mais on peut, mais ça dépend ce que vous entendez par là.
Là c'est plus de moi.
Oui. Oui. Non, mais regard politique. Oui, ben on est obligé, ça saute aux yeux, je veux dire, par l'histoire. Pas tellement par l'histoire, c'est presque autre chose, je dirais. Là, ça serait intéressant de départager la sensibilité à l'histoire et la sensibilité aux politiques. C'est assez divergent, en fait, mm-hmm. il me semble. C'est pas aussi convergent qu'on le penserait spontanément. Mais un rapport politique, ben, quand on voit ce que je racontais là, avec ce maire qui a sauvé l'existence de cette épicerie buvette et que ça change toute la vie du village, évidemment que c'est directement quelque chose qui a à voir avec la politique. Ou si on aborde justement la question de... comme à la fin du livre, j'essaye de décrire une nuit sur le vieux port à Marseille au mois de juillet. En effet, il y a toute la ville qui est dehors, notamment ce qu'on appelle les quartiers nord, ils sont là. Et ça crée une espèce d'électricité très, très bizarre, très intéressante, pas violente, mais nerveuse, disons. Mm-hmm. Et j'essaie de comprendre ce que je vois là, mais évidemment je ne peux pas le détacher du fait que Marseille est une métropole méditerranéenne et comme telle directement exposée à ce qu'est la Méditerranée aujourd'hui, à savoir une pile de nerfs. Et c'est donc mal, au fond, à moins qu'on soit Fanny, si ça fera qu'ils sont au bord de la Méditerranée. Mais encore que. Mais je dis ça, et à la seconde où je dis ça, je le regrette, parce qu'évidemment qu'il y a plein de choses intéressantes dans Nice, à Nice, sur Nice, etc. Et le plaisir est très bien dans un très beau livre, d'ailleurs, qui s'appelle Quartier perdu, je crois.
Ouais.
Il a très très bien décrit Nice, il est très fort à percer, il est très doué pour capter ces espèces d'atmosphères, justement, qui ne sont pas la devanture. Mais là, de ce livre, je me rappelle la description d'une. Comme il fait, c'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de mots, mais la description d'une route qui monte comme ça, c'est très très bien vu. Oui.
Est-ce que. Bon, on va bientôt terminer, mais une question peut-être un peu naïve, mais est-ce que vous pourriez nous dire à quoi pourrait, pour vous, ressembler un paysage parfait? Quand je dis parfait, c'est qu'un paysage qui créerait chez vous sentiment de. Je sais pas. Plaisir, d'émotion, c'est quoi, c'est comment vous définiriez, qu'est-ce que vous voyez spontanément?
Pour être ému, il faut. Non, parfait, non, je crois pas que ça puisse être très émouvant, ça, quelque chose de parfait. Voilà, il y a une phrase qui me vient à l'esprit, j'y pense souvent, hein, c'est Mallarmé est un des plus importants penseurs, je dirais, qui a existé, en tout cas dans la langue française. Et ce qui veut dire, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'il a dit. Il y a une phrase de lui où je pense qu'il se trompe du tout au tout quand il dit les langues imparfaites en cela que plusieurs. Il dit ça. Les langues imparfaites en cela que plusieurs. Ça veut dire il y aurait une perfection possible s'il y avait une seule langue. Pour moi, c'est une idée. Je pense exactement à l'envers de ça. Ça ne veut pas dire que je sois contre ma langue, mais c'est autre chose. Mais il me semble que les langues n'ont pas à être parfaites, mais qu'il est parfait qu'elles soient nombreuses. Formidable qu'elles soient nombreuses. Imaginez qu'il n'y en ait plus qu'une. Imaginez ce que serait le monde avec une seule langue. C'est la fin du monde. Et ben c'est pareil. Donc le paysage parfait, un endroit où ça s'approche, je suis parti en courant, c'est à Luxembourg. C'est parfait, justement, c'est joli.
C'est
la ville de Luxembourg, c'est joli, c'est très riche. Il n'y a pas de. La Suisse fait assez napolitain en comparaison. Et donc, je sais pas, il y a quelque chose. Et en même temps, du coup, c'est fascinant. Mais voilà. Ou alors après, si on va de l'autre côté, je ne sais pas, un paysage parfait, je ne sais pas, pour un japonais, le Fujiyama, etc. Mais y a, je pense que le mouvement qui est le mien, en tout cas dans ce livre, c'est surtout pas une recherche, une quête de ce type de perfection-là. Mm. Et je dois dire, m'intéresse très peu.
Ouais.
Je l'ai vu, le Fujiyama, mais il a toute ma sympathie, bien sûr, mais il ne m'intéresse pas forcément plus, lui, que l'espèce de petit recoin de rizière avec un espèce de distributeur automatique de café en pleine, voilà, qui est là. Je sais pas, c'est, je dis pas ça par misérabilisme, ah, ou par voilà, il me semble qu'on est trop soumis à ce genre de hiérarchisation. Et par parfait, c'est le top de la hiérarchie, c'est même ça. Voilà. Et donc, je pense que une approche du territoire, quel qu'il soit, ne doit pas être hiérarchique. C'est-à-dire qu'au moment où il y a le roi des animaux, le lion, ben non, justement, quand tout à fait ailleurs, quand on va en Afrique, il y a le lion, mais on s'en fout assez vite de lui parce qu'on est intéressé par les phacochères, parce qu'on est intéressé par tout le monde, tous ceux qui sont là. Et c'est une espèce de fabrique.
Il y a un auteur qu'on n'a pas lu peut-être, donc on peut passer la soirée, ce serait bien, qui est un peu, pas un maître, mais disons une figure importante quand même du récit, comme ça, sur le territoire, c'est Walter Benjamin. Vous vouliez peut-être
bien. Oui, c'était le troisième texte que j'avais sélectionné, de Walter Benjamin ou Walter Benjamin, comme on peut dire les deux. Moi, je dis Benjamin quand même.
Donc, les passages.
C'est sans doute, oui, je peux dire ça. Moi, ça, c'est l'auteur qui a joué le plus grand rôle pour moi, intellectuel. Mm-hmm. Et là, donc, c'est un récit qui se trouve à l'intérieur du fameux livre des passages, donc Paris, capitale du 19e siècle. Comme vous le savez, pas un livre achevé, une espèce d'énorme entrepôt de plus de 1000 pages. À propos de citations, de son travail d'archive, hein, et aussi d'intuition, de développement. Et puis c'est aussi un penseur, c'était la pensée du langage, une des plus riches pensées du langage qu'il y ait eu au XXe siècle, en tout cas celle qui, moi, m'a le plus fait réfléchir, et qui irait d'ailleurs dans le sens opposé à ce que disait Mallarmé, je pense. C'est plutôt une sensibilité à l'affleurement du langage, à la naissance du langage, plutôt qu'à ce que la phrase de Mallarmé relaye de langage déjà établi. Et voilà, et donc là, c'est c'est comme un conte de fait théorique. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Et puis, ça sera très bien pour terminer l'affaire. Donc, il parle pas de Paris dans le livre, dans sept passages, mais de Berlin. Mais parce que bon, c'était. Voilà. Il y a bien des années, et puis j'ajoute qu'il est mort très très pauvre, il est mort exilé, etc. Mais à un moment donné, il avait un petit peu de moyens, ce qui ressort dans ce texte-là. C'est un texte de sa période heureuse, si on peut dire, sur le plan de la vie. Il y a bien des années, j'ai vu dans une rame de tramway une affiche qui, si les choses importantes étaient à leur vraie place dans le monde, aurait trouvé ses admirateurs, ses historiens, ses exégètes et ses copistes, comme n'importe quel grand poème ou n'importe quel grand tableau, ce qu'elle était tout à la fois. Mais, comme il peut arriver, parfois, lorsque nous recevons des impressions inattendues et très profondes, le choc a été si violent, l'impression m'a percuté, si je puis dire, avec tant de force qu'elle a transpercé le sol de ma conscience et qu'elle est restée cachée dans l'obscurité pendant des années quelque part en moi. Voyez l'élégance avec laquelle il ne parle pas d'inconscient. Bon. Le choc a été si violent, l'impression m'a percuté, si je puis dire, avec tant de force qu'elle a transpercé le sol de ma conscience et qu'elle est restée cachée dans l'obscurité pendant des années quelque part en moi sans que je puisse la retrouver. Je savais seulement qu'il s'agissait d'un bicarbonate de soude, le sel Bullrich, et que l'entrepôt original de ce sel était une petite cave, Flottwellstrasse, devant laquelle je suis passé des années avec la tentation de descendre et de demander l'affiche. Or, j'arrivais un morne dimanche après-midi dans ce quartier nord de Moabit, qui m'avait paru spectralement construit pour cette heure de la journée, lorsque, il y a 4 ans, j'avais dû me rendre Lützowstrasse. J'étais venu alors dédouaner, selon le poids de ces pâtés de maison émaillée, une ville chinoise en porcelaine que j'avais fait venir de Rome. Cette fois, Des signes précurseurs indiquèrent déjà en chemin que l'après-midi devait être d'une importance capitale. De fait, il s'acheva par le récit de la découverte d'un passage, un récit qui est trop berlinois pour s'intégrer à cet univers de souvenirs parisiens. Mais avant cet épisode, je me trouvais, avec mes deux belles compagnes, devant un misérable bistrot dont la devanture était égayée par un arrangement d'enseignes. Sur l'une d'entre elles était écrit « Celle Bullrich »,« Bullrich Salz ». Elle ne contenait rien d'autre que ces mots, mais autour de ce signe graphique se déploya soudain sans peine le paysage désertique de la première affiche. Je l'avais une nouvelle fois sous les yeux. Au premier plan, une voiture tirée par des chevaux avançait dans le désert. Elle transportait des sacs sur lesquels était écrit « Sel Bullrich ». Un de ces sacs était percé et du sel avait déjà coulé par terre sur une certaine distance. À l'arrière-plan, dans le désert, deux poteaux portaient une grande enseigne avec les mots « Est le meilleur ». Mais que faisait la trace de sel sur la piste dans le désert? Elle traçait des lettres qui formaient les mots « Le sel Bullrich ». L'harmonie préétablie d'un Leibniz n'était-elle pas un simple enfantillage à côté de cette prédestination si précisément inscrite dans le désert? Et cette affiche ne donnait-elle pas une métaphore de certaines choses dont personne n'a encore fait l'expérience ici-bas, une image de la quotidienneté de l'utopie? Voilà. C'est merveilleux, et ce que je trouve merveilleux, c'est que on suit le récit, puis en même temps, c'est pas facile à comprendre. Moi, je l'ai lu 20 fois, mais il y a quelque chose qui échappe.
Un peu comme mon film aussi, parfois.
Ben, mais c'est pas un peu comme mon livre, c'est un peu comme dès qu'on sort. Dès qu'on est dehors, ça échappe. Et heureusement.
Mais merci beaucoup, Jean-Claude Savaillé. C'était passionnant de vous écouter. Je vous compte, si vous ne
lisez
pas le livre, je vous conseille. Il est sorti en poche il y a déjà quelques temps. Et c'est un livre magnifique. Merci infiniment.
Merci.
Merci à vous. Juste pour si ça t'intéresse, je crois que le mois prochain, c'est Iba Elou, c'est ça? Ça sera une conversation autour de l'amour dans l'époque moderne. Pourquoi on a du mal à aimer aujourd'hui? C'est une vraie question.